Alors, l'actualité sociale est principalement les manifestations anti-loi travail, la CGT, les blocages, les casseurs, les violences. Suscite beaucoup de réactions de la part des auditeurs, des réactions souvent très militantes, voire intolérantes. Même chose d'ailleurs avec le Brexit. Alors, pour analyser et essayer de mieux comprendre ces réactions, parfois violentes, je reçois Jean-Marie Charron, sociologue, spécialiste des médias. Jean-Marie Charron, bonjour.
Bonjour.
Ce qui m'aura vraiment le plus frappé, ce sont ces auditeurs qui nous accusent régulièrement de manque d'objectivité. Or, ce sont eux qui, finalement, ont une intolérance particulière au sujet qui ne les conforte pas dans leurs opinions. Deux exemples, Joseph qui nous écrit « Pourquoi France Culture s'obstine-t-elle à ne parler que des casseurs et de leurs vitrines brisées ? Pourquoi ne disent-ils pas que les vrais casseurs sont les forces de l'ordre ?» Et à l'inverse, François, « Vu la tribune accordée sur cette radio publique à la CGT, on est en droit de se demander si les journalistes n'ont pas quelque peu oublié la déontologie propre à la profession. » Alors, deux auditeurs, deux impressions contradictoires d'une même radio. Comment vous analysez cela, Jean-Marie Charron ?
J'analyse d'abord cela comme un phénomène de réception. On appelle ça la réception, c'est-à-dire comment le public effectivement accueille l'information, sachant que les recherches qui ont été menées sur le sujet dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et notamment, je pense aux travaux de Lazarsfeld, mais aussi de Daniel Dayan, qui nous montre qu'en fait, la réception de l'information n'est pas un phénomène mécanique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'envoyer un message pour qu'il soit entendu, compris instantanément. En fait, on est dans un phénomène dans lequel le public fait tout un travail. Nous, sociologues, nous disons travail sur l'information qui lui est envoyée, et ce travail, c'est un travail dans lequel il met en perspective sa propre expérience, ses propres valeurs, sa propre grille de lecture. Et puis, il fait un tri. Alors, effectivement, dans ce que nous avons à l'antenne, eh bien, il y a tout un tas d'éléments qui vont être retenus, d'autres qui vont être rejetés et complètement, éventuellement, occultés. Et puis, il faut se souvenir, sans arrêt, que, surtout actuellement, personne n'a une relation exclusive à un média. Personne n'a qu'un média comme référence. Donc, l'information, c'est quelque chose de beaucoup plus global. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui.
Les auditeurs font souvent des comparaisons lorsqu'ils m'écrivent d'ailleurs.
Tout à fait. Et puis il faut se souvenir qu'aujourd'hui, toute une partie des auditeurs et du public, souvent d'ailleurs, commencent à repérer l'information par les réseaux sociaux. Il faut se souvenir qu'il y a une étude qui vient de sortir là, du Reuters Institute, qui montre que pratiquement la moitié du public aujourd'hui, c'est une étude sur 23 pays, donc c'est quelque chose d'assez conséquent, la moitié du public passe par les réseaux sociaux pour identifier l'information, quitte ensuite, effectivement, via les recommandations, aller sur les médias qui étaient traditionnellement ces médias. Donc, tout ce qui est repéré, c'est pas forcément ce qu'on a entendu dans telle ou telle radio. Et puis, il faut se souvenir que ce public, il a une éducation qui a beaucoup évolué. Il est beaucoup plus porté, effectivement, à évaluer le travail des journalistes, le travail des rédactions, comme un domaine finalement de compétences parmi d'autres, et ça va l'amener par exemple à contester la hiérarchie de l'information. C'est devenu très très fréquent aujourd'hui lorsqu'on travaille sur la manière dont le public apprécie le travail des médias, d'entendre effectivement cette discussion sur pourquoi on a mis tel sujet, pourquoi on a pris tant de temps, pourquoi on a fait venir tel invité, est-ce que tel expert est un véritable expert.
Mais alors certains auditeurs finalement ne voudraient n'entendre que l'écho de leur propre opinion.
Alors si vous voulez, je pense que ça, cette question-là, ça renvoie certainement davantage, moins un phénomène de médias qu'à un phénomène, de période en termes de société. On est dans une évolution sociale extrêmement rapide. On voit que les cadres dans lesquels nous avons été habitués ou nous avons parfois été biberonnés les uns et les autres, pensons à l'Europe. C'est-à-dire, nous venons, d'une histoire de l'Europe qui date de l'après-guerre et puis, d'un seul coup, l'un des pays extrêmement importants de l'histoire de l'Europe récente, le Royaume-Uni, décide de sortir, alors que tous les pronostics, d'ailleurs, allaient plutôt dans un
Exactement.
Autre sens. Là, une fois de plus, les uns et les autres, nous sommes pris à contre-pied. Nous ne savons pas où aller, où nous allons, comment va se transformer cette Europe, de la même manière que, depuis des années, nous nous interrogeons sur la place de l'Europe dans le monde. Et dans ces périodes-là, il y a des tendances à la rétractation, à se replier un peu sur ce qui fait sens, ce qui semble être, un peu le noyau de nos valeurs, et du coup, peut-être, à être d'autant plus porté à rejeter tout ce qui n'est pas dans ce sens-là.
Oui, mais c'est peut-être une forme d'extrémisme, en fait, finalement, qui se développe.
Alors, c'est certainement un défi pour les médias que de devoir effectivement travailler sur cette question-là et de faire en sorte qu'ils puissent continuer à ce qu'était leur rôle dans nos sociétés démocratiques, c'est-à-dire travailler à renouer le lien social.
Parce qu'on ne peut pas faire écouter qu'une seule opinion. Le pluralisme est important.
Surtout ne pas entrer dans ce jeu-là. Surtout quand on est un média généraliste, surtout quand on est un média de service public.
C'est-à-dire que Sauf que moi, je vois des auditeurs qui refusent cet aspect-là.
Alors, c'est des choses qui doivent se discuter. Je pense que lorsqu'on va sortir un peu, parce qu'il y a toujours un moment où un sujet extrêmement brûlant va être un peu moins sur le fil, eh bien, je pense qu'il est important de revenir dessus, de faire une forme de making-of et de dire, ben voilà, ce dossier, il a fait problème. Mais comment l'avons-nous travaillé ? À partir de quel type d'enquête ? À partir de quel type de dossier ? À partir de quel travail journalistique ? Et je pense que c'est une manière, je dirais, de réintroduire, de renouer le fil avec le public et de permettre que ce public partage un certain nombre d'éléments.
Parce qu'en effet, je vais vous prendre un exemple typique de France Culture. Je reçois des remarques d'auditeurs qui n'acceptent pas que leur radio invite des personnalités qui ne pensent pas comme eux. Je suis régulièrement interpellé à propos des interventions de Michel Onfray ou d'Alain Finkielkraut. Or, on a toujours pensé que c'était une richesse intellectuelle que d'écouter diverses opinions que l'on ne partage pas forcément.
Bien sûr, et surtout lorsqu'on est dans une radio comme France Culture,
exactement.
Qui par définition doit être le lieu du débat public, le lieu de l'entrechoquement des intelligences, et il est effectivement important que cela continue. Alors peut-être qu'en revanche, il faut que... faire davantage de pédagogie, c'est-à-dire réexpliquer, donner et imaginer des espaces où précisément on réintroduit ce sens de la diversité. Il faut toujours se souvenir que la France vient, je dirais, d'un univers qui était dominé par la presse d'opinion. Et probablement que nous avons plus de mal, par exemple, que les Anglo-Saxons à accepter cette idée que l'espace des médias est un espace de diversité et un espace de discussion.
Merci Jean-Marie Charron, sociologue, spécialiste des médias, pour cet éclairage.